1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD. Salut Ghislain.
Salut Philippe. Comment j'attendais en fait, je me dis pourquoi il s'arrête là. Il change ses habitudes, ça va pas.
Ouais, c'est bien de changer des fois. Ça va?
Oui, ça va bien et
ouais,
toi?
Ouais, ça va très bien. Deuxième émission autour de démocratie.
Ouais.
Et je suis retourné chercher un philosophe. J'adore ça en ce moment.
Oh
je
ouais, pas... tu es super philosophique en
ouais,
ce moment.
Ouais, ouais, ouais. Je traverse une période. Bah, en même temps, ils disent des choses assez pertinentes, hein, je trouve. Pas tous, mais en tous
oui,
les cas,
ce que j'allais dire.
Ceux que je retiens. Alors, la semaine dernière, c'était Alain Deneau. Et aujourd'hui, c'est Jacques Rancière. Bon, il n'est pas tout jeune, Jacques Rancière, mais il reste pertinent. De mon point de vue. Et du coup, il va parler de suffrage universel, de populisme, de crise du système représentatif. On l'écoute et puis tu réagis après.
Ok.
Alors, Jacques Rancière, qu'est-ce que ça, pour vous, c'est la démocratie représentative qui fabrique des Donald Trump ou tout autre qui peut lui ressembler d'une manière ou d'une autre?
Je crois que la difficulté, c'est que, on a pris l'habitude d'identifier démocratie à système représentatif. Or, dans le principe, c'est complètement différent. Comme on le sait, dans la démocratie, le principe démocratique, c'est qu'on, justement, on représente le moins possible. Qu'on délègue le moins possible, qu'on représente le moins possible, que finalement, la distance est toujours minimum, et qu'effectivement, bon, on évite justement de donner un pouvoir extrême à une personne, on évite de donner le pouvoir à des politiciens professionnels qui se reproduisent à vie. Donc je veux dire qu'il faut bien voir que le système représentatif est un système en fait qui a une origine tout à fait différente du système démocratique. La démocratie au sens, on sait bien que même au sens vraiment strict, la démocratie, il n'y a pas de représentation. Et notamment, bon, on sait que dans l'Antiquité, c'était le tirage au sort qui était considéré comme la manière démocratique de choisir ceux qui allaient s'occuper des affaires publiques. Donc le système représentatif, c'est quelque chose de très très différent. Ça veut dire finalement, en gros, ça veut dire qu'il y a des notables, finalement, qui sont en quelque sorte des gens qui sont représentatifs dans la société, qui se proposent en quelque sorte pour diriger la société, et effectivement qui demandent bon une forme d'adhésion quoi, avec des formes tout à fait différentes, mais ce qui crée un certain type de rapport effectivement entre des individus et puis bon un peuple qui en gros n'est à ce moment-là plus guère qu'un peuple d'électeurs, qui sont tout à fait spécifiques, qui n'ont rien de démocratique en soi-même, mais qui sont vraiment liés à la représentation, au système représentatif en tant que tel quoi. Et notamment, évidemment, à cet extrême du système ce système présidentiel avec un président élu au suffrage universel. Quoi. On dit toujours, c'est la démocratie incarnée, mais non, pas du tout. Il faut se souvenir qu'en France, ça a été une invention royaliste. En 1848, c'est les royalistes qui ont inventé la présidence de la République, élu au suffrage universel, pour passer en quelque sorte par-dessus, l'Assemblée, les clubs, l'agitation populaire, et avec, ils avaient l'idée, c'est malheureux, que, disons, il allait rappeler le roi, quoi. En fait, non, il n'a pas rappelé le roi, il s'est appelé lui-même, puisque c'était Louis-Napoléon Bonaparte, quoi. Et bon, je veux dire, on sait que pendant très longtemps, effectivement, bon, on n'en a plus parlé en France, c'est revenu avec De Gaulle, avec, effectivement, cette idée quand même qu'il y a un rapport entre un homme providentiel et puis le peuple, quoi. Et je crois que, malgré tout, ce qu'on appelle crise de la démocratie, a très très peu à voir avec la démocratie. C'est vraiment une crise du système représentatif, bon, en tant que tel. Et d'une certaine façon, une crise qui atteste précisément du fait qu'il y a très très peu de démocratie dans ce système. Et qu'effectivement, cette démocratie est comme en quelque sorte substituée par ce qu'on appelle le populisme, qui est une chose quand même très très compliquée, pas claire, parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une espèce de grand corps collectif qui s'appellerait le peuple, comme ça, qui réclamerait des choses, qui s'exprimerait à travers des représentants. Mais c'est pas comme ça. Il y a une offre en quelque sorte, et bon, on se situe par rapport à une offre, mais je crois que fondamentalement, il faut inverser un peu les choses. On dit toujours, bon, on fait toujours comme si c'était le peuple qui crée en quelque sorte la représentation. Non, c'est la représentation qui crée le peuple. C'est un système institutionnel, c'est un système de pratiques, c'est tout un ensemble finalement de formes d'interpellation qui crée un peuple. Donc quelquefois, il faut penser un peu le rapport à l'envers. C'est-à-dire de dire pas, bon, Donald Trump, c'est pas le type qui sort du peuple. Ça veut dire que tout à l'heure, on parlait du rêve américain. Bah, le rêve américain, en principe, c'est quand même le self-made man. Comme self-made man, il se pose quand même un petit peu
oui,
là.
Oui, c'est un héritier.
C'est un héritier. Et en plus, bon, quand on voit effectivement que bon, c'est un milliardaire qui incarne d'une certaine façon justement l'homme de la rue, bon, on voit bien qu'il y a quand même un petit problème. Quoi. C'est un petit problème, c'est-à-dire que c'est pas la rue qui, en quelque sorte, qui fait venir Donald Trump. Bon, c'est des gens comme Donald Trump. C'est tout un système qui crée un peuple à leur image.
Je suis pas d'accord.
Bon, la dame, elle n'est pas d'accord, mais... Toi, est-ce que tu es d'accord?
C'est pour ça que tu lui as coupé la parole.
Oui, c'est ça. C'est...
Démocratie, droit d'exprimer, etc. Bon, non, c'est pas pour nous. Ok.
Bon, il y a beaucoup de choses là aussi.
Il y a beaucoup de choses. Oui. Ouais, il y a beaucoup de choses. C'est intéressant sur les représentants qui représentent pas.
Ouais.
Je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on en reparlera, ça, c'est une vraie belle crise. Et surtout, moi, ce que je retiens et que je trouve vachement intéressant parce que c'est pas le discours qu'on entend habituellement, c'est que la représentation, c'est pas la démocratie.
Ouais. Mmh.
Ça, c'est vachement intéressant, parce qu'on nous parle toujours de démocratie représentative, c'est-à-dire on vit dans une démocratie où le peuple donne un mandat à des gens qui le représentent pour gouverner en son nom. On nous dit, voilà, c'est ça la démocratie dans laquelle on vit. Et on s'aperçoit que finalement, lui, ce qu'il nous dit, c'est que non, ça, c'est pas une démocratie.
Non. Et c'est intéressant aussi quand il évoque le fait que on fait un choix lors d'une élection, mais effectivement, on a une offre et on ne peut se positionner que par rapport à l'offre qu'on nous propose.
Oui.
Et c'est vrai que cette offre n'est pas forcément représentative des aspirations du peuple.
Et de là, on rejoint aussi ce qu'il dit à la fin, c'est-à-dire qu'on pense toujours que le peuple, il pense des choses, que le peuple, il a des aspirations, justement. Sauf que... comment dire ? Sauf que le peuple, est-ce que ça existe ?
Oui. Est-ce que ça existe ? Ouais, ça, c'est, effectivement, c'est une autre problématique. Et j'en vois une autre aussi, c'est que dans nos démocraties actuelles, en tous les cas en France aujourd'hui, l'exercice démocratique, il se limite, pour ainsi dire, pour beaucoup d'entre nous, à l'élection présidentielle ou aux grandes élections, et qu'au-delà de ça, on n'a pas forcément de véritable investissement, participation à nos démocraties.
Non,
souvent, on se contente éventuellement d'aller voter, et encore pas tout le monde, et indépendamment de ça, qu'est-ce qu'on fait pour nos démocraties ?
Comment on fait vivre ça ? Comment est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on nous laisse faire ? C'est ça aussi.
Oui,
tout à fait. C'est ce qu'on disait dans la première émission, avec tous les médias, toute la pression, toute la manipulation et la propagande des médias qui justement sont là pour calmer les gens, les faire voter quand ils ont à aller à voter pour une offre qui convient au système et effacer les autres offres, les rendre minoritaires, travailler sur les affects, etc. Enfin, tu vois, c'est super intéressant.
C'est ça. Et tant qu'on n'a pas conscientisé tout ça, effectivement, c'est un petit peu compliqué d'être proactif dans tout ça.
Ouais, voilà. Ou tu deviens... c'est les quelques miettes... qu'on te laisse, qu'on te donne, démocratie participative, ou dans les villes, en fait, démocratie participative, on te fait choisir la couleur du bâtiment, et non pas quel bâtiment, où il va être situé, et à quoi il va servir.
Et encore, c'est même pas forcément la couleur du bâtiment, c'est parfois simplement la couleur des cages d'escalier.
Ouais, le nom.
C'est ça. Bon, on y reviendra. Autre son ?
Autre son, justement, sur... alors, la crise de la démocratie participative, hein. Mm-hmm. C'est encore un son de Datagueule qui montre qu'en fait, bah, y a quand même un gros problème avec ce système de le peuple élit des représentants qui sont chargés de parler en son nom, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que ces représentants, bah, ils ne représentent pas du tout les gens qui les ont élus.
La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Merci, Monsieur Camus. Bonjour. Des citoyens qui élisent des représentants qui décident des grandes orientations du pays d'après leur programme annoncé, bienvenue en démocratie représentative. La théorie semble simple, mais dans le concret, qui représente quoi ? Moins de 4% des membres de l'Assemblée nationale ont entre 25 et 40 ans. Dans la population française, cette tranche d'âge représente près de 19%, 4,5 fois plus. A l'inverse, 32% des députés ont entre 60 et 70 ans, là où cette génération représente à peine 11% des Français, presque 3 fois moins. Au Sénat, 80% des élus sont des hommes. Et devinez quoi ? Les sénateurs ne sont pas élus par le peuple, mais par le vote de 162 000 grands électeurs, soit 0,3% des inscrits sur les listes électorales en 2014. Côté représentation parlementaire, on a connu mieux. Depuis 1958, chacune des 577 circonscriptions électorales françaises doit légalement compter 93 000 habitants en moyenne, histoire que chacun des 577 députés représente le même nombre de citoyens. Ce découpage doit obligatoirement être revu après deux recensements, mouvement de population oblige. Or, celui qui tient les ciseaux peut faire pencher la balance. En 1986, Charles Pasqua, chargé du redécoupage, saucissonne Lyon en longues tranches. Il va ainsi chercher aux quatre coins de la ville des soutiens à droite pour chaque circonscription. Aux élections suivantes, bingo, le RPR conquiert la ville. Regardons du côté du cumul des mandats. Moins d'élus pour le même nombre de postes, voilà qui limite aussi la représentativité. 36% des députés exercent 3 mandats ou plus. 17 d'entre eux, près de 3%, cumulent même 4 mandats. Patrick Mennucci est le champion toute catégorie, avec 5 mandats en cours. Mais la fin du festin est proche. Votée en 2014, la loi sur le non-cumul des mandats entrera en vigueur en 2017. Additionner un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale sera illégal. En attendant, notre démocratie représentative semble grippée et l'abstentionnisme grimpe. Au premier tour des élections municipales, elle est passée de 21% en 1977 à 37% en 2014. Aux élections régionales, elle est passée de plus de 22% en 1986 à 50% en 2015. Alors que faire ? Dans certains pays, le vote est obligatoire, comme en Belgique, où tout abstentionniste risque une amende de 30 à 60 euros et jusqu'à 150 euros en cas de récidive. Résultat, le taux de participation au scrutin avoisine les 90%. Mais pour que ce soit vraiment fair-play, il faudrait prendre en compte les votes blancs. Comme au Pérou, où quand les bulletins non valides représentent plus de 66% des votes, l'élection est annulée. Ou en Colombie, où une majorité de bulletins blancs remettent les compteurs à zéro. Mais l'on peut aussi penser le système différemment. En Suisse, les citoyens disposent de plusieurs outils pour rendre leur démocratie plus directe. Avec 100 000 signatures réunies en 18 mois maximum, n'importe quel électeur peut soumettre une initiative populaire, une nouvelle loi, au vote de ses citoyens. De la même manière, toute loi votée par l'Assemblée fédérale suisse peut être retoquée par référendum. Référendum à la demande des citoyens. Il faut récolter 50 000 signatures dans les 100 jours qui suivent le vote de la loi. En Islande, en 2010, le tirage au sort a même fait son grand retour en politique. Pour réformer la constitution du pays, le gouvernement a organisé un forum démocratique. 1000 citoyens de 18 à 91 ans furent choisis de façon aléatoire. Résultat, après une journée d'échange, 700 pages de rapport rassemblant 12 000 propositions. Fou ? Dans la Grèce antique, le tirage au sort était pourtant l'un des piliers de la démocratie athénienne. C'est ainsi qu'étaient désignés les 500 membres de la boulée. Leur rôle était de recueillir les projets de loi émanant directement des citoyens d'Athènes. Mais tout cela reste loin de notre hexagone. En attendant, un collectif comme Regards Citoyens a lancé en 2009 le projet nosdéputés.fr. Il permet de passer au crible l'activité de chaque élu de l'Assemblée nationale et de commenter les projets de loi. Mais si les électeurs scrutent les politiques, les élus, eux, lisent-ils seulement ce que proposent les citoyens ? Le temps est sans doute venu de s'interroger sur les limites de notre démocratie représentative, régie par les règles de la Ve République, née il y a presque 60 ans. Et l'on pourrait en profiter au passage pour remettre la politique à sa place, au centre de nos cités.
Intéressant, non ? Ouais. De voir qu'en fait, voilà, ces gens qui sont censés nous représenter, bah, représentent... pas vraiment nous, mais plutôt eux.
Ouais, oui, ça c'est sûr. Alors effectivement, après, souvent on entend les politiques se targuer de leur légitimité après les élections, lorsqu'ils ont été élus. Ouais. Mais c'est vrai, quand on leur ramène véritablement à leur représentativité réelle par rapport à la population, c'est juste affligeant. Ils représentent...
Ils représentent eux, eux seuls. Là, on a entendu parler, on parle pas des femmes.
Hein. Oui.
Les femmes à l'Assemblée nationale, c'est de... Il y en a de plus en plus, c'est quand même... On est loin du compte. On parle pas, par exemple, de la représentation sociale.
Oui.
Les ouvriers.
Ah, mais c'est
les
juste,
ouvriers au
c'est
Parlement. Je crois qu'il y en a plus qu'un ou quelque chose comme
ouais,
ça.
Il ouais, enfin, y en a moins que sous le mandat précédent.
C'est quand même hallucinant.
Ouais. On est loin du compte. Oui.
Non, rien, vas-y.
Donc, il y a des solutions qui existent, on les évoquera peut-être à la fin de cette émission ou dans les prochaines. Mais pour autant, le constat, il est sévère, là. Et j'aime bien la façon dont le son finit, c'est-à-dire que c'est aussi un appel, ce qu'on évoquait précédemment. À un moment, il faut vraiment prendre conscience de tout ça, pas se laisser manœuvrer et essayer d'être encore une fois plus proactif. Mais ça veut dire un engagement qui n'est pas forcément un engagement dans des partis politiques, mais dans une vie de la société. Ça peut commencer à l'échelle de son quartier, de sa ville, parce que c'est peut-être plus simple de le faire aujourd'hui. Et il y a un mouvement, des mouvements qui s'amorcent dans ce sens-là. J'aime bien aussi, ça a été évoqué, le site nosdéputés.fr.
Ouais,
et c'est vrai que depuis que ça existe, si vous avez la curiosité d'aller voir, c'est quand même assez intéressant, ne serait-ce que de regarder si... le député qui est censé nous représenter, son taux de présence, les choses sur lesquelles il intervient ou n'intervient pas, c'est assez passionnant, quoi.
Ouais, ça c'est super intéressant. Mm-hmm. Pour pouvoir ensuite lui rappeler en fait
exactement.
Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas et en quoi il manque à son devoir de représentativité.
Tout à fait. Pause musicale.
Allez. Feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and or a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove. I'm not. Show the favorite to the egg. I'm not getting let alone. Wave
think I'm not getting along. The barrel, it's already dead. I know you have the glove. I'm not getting wet. The barrel, looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let along.
C'est tout doux, c'était ouais, tout mignon.
C'est Aldous Harding. Wow. Ça s'appelle The Barrel et c'est ma plus grande chanteuse du monde du moment. que okay, j'ai eu en concert cet été, enfin au printemps là, à Nîmes. Et alors, elle n'est pas politiquement correcte du tout. Hein.
Ah ouais?
Ah non. Mais j'adore.
Mais c'est juste, et en fait, elle justement fait... pour ça.
Ouais, oui, c'est peut-être pour ça. Mais... c'est une expérience à voir sur scène hein, parce qu'elle est dans son monde, elle fait son truc et en même temps ses chansons sonnent comme des classiques absolus, j'adore ça. Bref, démocratie.
Yes, démocratie,
c'était
on
quand
y
même
retourne.
Notre sujet, on y retourne. Et je vais te faire écouter quelqu'un qui intervient d'ailleurs à un moment dans le film de Data Girl, Démocratie, c'est comme ça que je l'ai découvert. Il s'appelle Loïc Blondiot, alors c'est un prof...
C'est le frère d'Adeline.
Alors là, faut que tu...
Ah, tu connais pas ? C'est une nana qui a joué dans... Bon, si tu connais pas, c'est pas drôle.
Mais si, c'est une ex nana de Johnny.
Voilà, c'est ça.
D'accord, ok. Ouais, c'est son frère jumeau, je crois. Donc non, en fait, il est politologue, Loïc, et prof à la Sorbonne. Et alors, lui, il prône le renversement des structures sclérosées de la démocratie et on l'écoute et puis on en parle après comme on fait d'habitude.
Moi je pense que la spécificité de la période actuelle, la période que nous vivons, c'est ce que je pourrais appeler la fin de l'évidence démocratique. De manière très très paradoxale, nous avions fini par croire que nous vivions en démocratie. Ce régime inventé à la fin du XVIIIe siècle contre la démocratie, déléguant le pouvoir véritable d'agir à un groupe de représentants, avait fini par s'identifier à la démocratie. Or, j'ai le sentiment aujourd'hui que, en quelque sorte, les masques tombent et que l'on découvre que nous ne sommes pas et nous sommes de moins en moins en démocratie. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un dessaisissement du pouvoir politique qui est transféré à des agences, à des pouvoirs qui sont non seulement opaques, difficile à comprendre, mais en plus insaisissable, sur lesquels le citoyen n'a absolument aucune prise. Et le politique donne l'impression de ne plus rien gérer, sauf quelques dossiers, certains segments de l'action publique, puisque le politique continue à mettre en scène son propre pouvoir, mais sur des problèmes qu'il crée lui-même. Nous ne sommes pas égaux devant la représentation, nous ne sommes pas représentés de la même manière. Je suis frappé que la thématique du 1% contre les 99%, ou la notion même d'oligarchie, qui est en train de s'imposer dans le discours politique tout doucement, est en train de traduire cette inégalité de représentation. Ce que nous montrent les indignés, c'est qu'il y a des capacités d'auto-organisation à l'intérieur de la population, et il est évident qu'aujourd'hui le processus politique doit apprendre de ces expériences d'auto-organisation. Nous vivions sur une fiction. La fiction était que en participant à l'élection tous les 5 ans d'un grand homme, nous avions une influence sur le gouvernement. Or, cet appauvrissement de la notion même de représentation, me semble-t-il, doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut multiplier entre les élections les épreuves de légitimité. Il faut donner la possibilité aux citoyens d'interpeller le pouvoir. Il faut obliger le pouvoir à rendre des comptes. Le malaise est lié à cette hyper-professionnalisation de la politique qui crée un certain nombre de problèmes. Donc n'oublions pas la représentation constitutionnelle, la réforme constitutionnelle qui me paraît tout à fait importante. L'Islande qu'a-t-elle fait au moment de la crise ? Elle a pensé un dispositif constituant dans lequel une assemblée de citoyens tirés au sort à élaborer des projets, à essayer de définir des perspectives qui ont été reprises par un groupe de citoyens ordinaires élus, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé des représentants. Ces citoyens ont consulté sous la forme d'une wiki-constitution le peuple entier qui a annoté cette constitution, et cette constitution sera soumise in fine au référendum. Ce mélange de démocratie participative, de débat public approfondi et de démocratie directe qui laisse à chacun la possibilité de peser sur le processus me paraît aller dans le bon sens. Il y a d'autres expériences au niveau mondial qu'on méconnaît, me semble-t-il, mais qui me paraissent intéressantes.
Je sais, moi aussi, ça me paraît aller dans le bon sens.
Ouais, moi aussi, ça me paraît aller dans le bon sens.
Ouais.
Mais bon, l'impulsion est là, mais après, il faut y aller dans ce sens-là. Et ce n'est pas un truc forcément évident. Ça nécessite forcément de mobiliser des énergies et que l'envie soit partagée par un bon nombre de citoyens remettre en cause tout ça.
Et que les gens en place veuillent bien aussi laisser faire.
Ça, à mon avis, il ne faut pas trop y compter. Hein. Je pense que c'est là qu'il va y avoir énormément d'inertie. On le constate, pour ainsi dire, tous les jours. Et par rapport à l'exemple de l'Islande que Loïc Blondio évoque à la fin du son, quand on parle d'inertie, alors je me suis un peu renseigné là-dessus parce qu'il y a quelques années de ça, on en avait parlé d'ailleurs
beaucoup,
à SLP.
Oui. Hein. Bah, c'est quand même un exemple incroyable.
Ouais, c'est un exemple incroyable tout à fait, avec une mobilisation des citoyens islandais pour écrire une constitution, etc. Et il s'avère que tout ça, alors qu'il y a eu des avancées remarquables, il y a eu une mobilisation, encore une fois, une écriture de nouvelles constitutions, notamment avec l'utilisation de nouvelles technologies, etc. Quoi. Donc, bienvenue dans le monde moderne. Et pour autant, tout ça a été bloqué par le Parlement. Et c'est là où on se dit, mais il va falloir soulever des montagnes pour réussir véritablement à renverser tout ça et à refonder une démocratie qui en soit véritablement une.
Ouais. C'est intéressant, c'est la deuxième personne en fait, qui nous dit que notre démocratie représentative, ce n'est pas une démocratie.
Ouais. Et je pense qu'ils n'ont pas tort.
Quand il y en a deux, qui te disent ça, etc. Enfin, ils se connaissent pas forcément, c'est pas forcément la même époque à laquelle ils parlent et tout ça. Enfin, tu vois, tu te dis bon, il y a peut-être un truc à creuser dans ce sens-là quand même.
Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant quand même depuis quelque temps, je saurais pas le dater précisément, ou alors c'est peut-être parce que je m'y intéresse de plus près aujourd'hui. On sent quand même qu'il y a des paroles qui se libèrent. Qui se structure. Là, effectivement, on a entendu un certain nombre de penseurs, philosophes, politologues remettre véritablement en question ces notions de démocratie. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur.
Oui, bien sûr.
Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est aussi comme ça, avec un discours qui se diffuse, que véritablement les prises de conscience vont se faire et les mobilisations vont suivre.
Ouais. Et puis c'est intéressant de voir, là, il parle des indignés, par exemple. Il y a Podemos en Espagne qui part d'un mouvement des indignés. En fait, au départ, c'est vraiment ça. Hein, et qui aujourd'hui est au pouvoir, qui gouverne, qui co-gouverne l'Espagne, puisque c'est un gouvernement de coalition. Et ce qui est intéressant, en fait, de voir, c'est au niveau de la représentativité, ce qui a changé. C'est-à-dire que tout à coup, on a eu des classes sociales qui sont apparues au Parlement, qui ont été élues, qui ont été élues députées. On a un des porte-parole de Podemos, c'est une personne qui est tétraplégique.
Oui.
Voilà, il y a beaucoup plus de femmes. On a vu des maires avec leur nouveau-né arrivé au Parlement espagnol.
Oui, mais c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est véritablement que ces instances-là soient représentatives de toutes les couches de la société.
Et c'est vrai que tout à coup, quand on regarde les émissions politiques en France et quand on regarde les retransmissions du Parlement espagnol, il y a un truc qui est très différent. Il y a une façon de vivre les choses qui est très différente et on voit apparaître des gens qui sont très différents. Un truc qui m'a beaucoup interpellé, on entend des accents différents en Espagne. Mmh. Et il y a une ministre, je crois que c'est le ministre du budget, je ne suis pas sûr, mais il me semble, qui a un accent andalou à couper au couteau.
D'accord.
Mais vraiment, en France, nos ministres, il n'y en a aucun qui a un accent, même s'ils viennent du Sud, ils ne parlent pas avec l'accent du Sud.
Souvent, il est gommé.
Eh oui.
Tout à fait. On est à la fin de cette deuxième émission.
Ah, de l'émission, ça va alors.
Ouais, et on se retrouve. Ton cœur bat fort, je l'entends. On se retrouve la semaine prochaine et peut-être qu'on va commencer à évoquer des solutions, des expérimentations qui ont lieu en France ou ailleurs.
Allez, ok, un peu d'espoir.
Un peu d'espoir.